je vous laisse maintenant la parole s'il y a des questions. Au fond, je ne vois pas, mais quelqu'un qui à droite. Là-bas.
Oui. Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier beaucoup, Monsieur Chauder. Nous sommes un certain nombre ici, psychologues scolaires, dans les RAZ, et oui. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Enfin, on n'espère pas, mais... On voudrait absolument que la clinique continue et puisse continuer à exister à l'école, où elle montre chaque jour son utilité. Je suis très très émue, je suis désolée.
C'est pas bien.
Il a été dit pendant ces trois jours que nous étions en train de former un nous de résistance. Et nous le ressentons très très fort. Ce renoncement de l'éducation, qui est une forme d'infanticide, est insupportable. Je vous remercie de nous aider d'être avec nous pour que nous ne devenions pas des VRP, des QI, ni des dépisteurs de 10. Donc, merci de signer les pétitions Sauvons les RAZ et de nous soutenir. Merci.
Merci à vous.
Je voudrais m'adresser à Monsieur Sicard et je crois à Monsieur Schubert aussi. Mon nom est Anne Ancelin, je suis de Saint-Berger, pour les remercier d'avoir attiré notre attention sur les dangers de ce qu'on appelle le dépistage préventif et de rappeler tous les dangers de ce qu'on a appelé en psychologie sociale, la réalisation automatique des prédictions. Nous sommes à l'aube de 2009 et tout le monde s'inquiète sur la répétition de ce qui est arrivé en 1929. Mais la crise de 1929, avec ses millions de chômeurs et la guerre qui en a suivi, et le cher monsieur Hitler qui en est résulté, provient de la réalisation automatique des prédictions de tous les gens qui ont enlevé leur argent des banques parce qu'ils ont prédit et qu'on a prédit que quelque chose de mauvais se passerait. Et les psychosociologues ont mis en évidence qu'en psychologie et surtout en psychanalyse et en médecine, on voit absolument la réalisation automatique des prédictions qui se font et de prédire à des enfants et à des parents dès leur naissance que quelque chose peut arriver, va le faire advenir, et ça c'est un danger mortel pour les enfants et notre civilisation. Merci d'avoir soulevé ce problème et merci d'y faire attention.
Voilà.
On m'entend là ? Oui.
Allô ?
Oui, ça marche. Voilà, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, il est extrêmement urgent qu'il y ait des psychanalystes. Moi, je préconise dans tous les services territoriaux, 85% des mineurs en prison ont eu affaire à l'aide sociale à l'enfance, 50% des SDF jeunes, j'attends qu'on me donne les chiffres de ceux qui glissent vers les hôpitaux psychiatriques, c'est catastrophique. C'est ce qui a été dénoncé déjà hier de façon plus globale. Il y a des conseillers techniques dans certains ministères qui me demandent d'envoyer mes propositions. Moi, je propose à toutes les écoles de psychanalystes de se joindre à ça et qu'il y ait des psychanalystes absolument au niveau de l'aide sociale à l'enfance. D'autre part, en ce qui concerne l'école, si on a été capable de mettre 6 millions de personnes dans les fours crématoires, à la dernière guerre, on n'a rien changé à l'éducation, à la pédagogie, rien dans le sens de ce que disait François Zolto, l'école caserne qui fabrique des moutons. Donc là, ce qui va suivre maintenant sera bien pire que ce qu'a fait Hitler. Voilà. Et tout repose sur l'éducation. C'est bien dommage qu'on ne l'ait pas mis au niveau de, Voilà, il est urgent de faire un tri.
Caroline Eliachev a demandé la parole. Caroline, au premier rang, là.
Je crois qu'il faut raison garder.
Voilà.
Raison garder dans les mots. Dans les mots. Attention aux mots que l'on emploie. Tout n'est pas dans tout. Vous avez ici, et nous avons tous, une possibilité de nous exprimer librement, mais pas forcément pour aller au-delà de ce qu'il n'est pas souhaitable d'entendre. On ne peut pas tout dire à n'importe quel moment et n'importe quand. Ça, c'est une première chose. Je suis frappée quand même par le... Bon, on vit dans une société qui n'est pas facile, hein. Je pense que à toutes les si ce centenaire avait eu lieu à un autre moment, on aurait eu énormément de raisons de se plaindre. Mais je ne sais pas, puisque c'est le centenaire de Françoise Dolto, elle avait un optimisme que je ne retrouve pas aujourd'hui. Je pense que autant l'analyse telle que peut la faire Monsieur Sicard depuis des années est absolument pertinente, intéressante et doit nous amener à proposer d'autres choses, autant un certain discours catastrophiste, d'une certaine manière, me révolte. Voilà.
Alors, je voulais juste rebondir tout de suite là-dessus, en entendant parfaitement ce que vient de dire Caroline. C'est la raison qui m'a fait avant-hier reprendre la phrase de Françoise Dolto, « Vous ne ferez jamais assez de psychanalyse. » C'est pour ça qu'ils viennent vous voir.
Oui, si je peux me permettre.
Oui, un instant. Je voulais ajouter à ce qu'a dit Caroline que les films que nous avons vus et les propos extraordinairement douloureux que nous a rapportés tout à l'heure Arnaud de Mesama, ce sont des choses de la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'elle sentait qu'elle n'avait plus la force ni le temps de se battre pour ça et qu'elle laissait ça à d'autres. Je pense que si elle avait constaté les mêmes choses en étant plus jeune, elle aurait fait comme nous, elle aurait redroussé ses manches et elle ne se serait pas plainte, elle aurait bossé.
Oui, je voudrais donner deux points de réponse aux deux remarques de Caroline et de Catherine. Catastrophisme, non. Vigilance, oui. Catastrophisme, non, mais résistance, oui. À qui a la chance de travailler, comme c'est mon cas, dans toutes sortes de milieux et dans des situations qui sont parfois pour le moins acrobatiques, qui fréquente un certain nombre de lieux où le mot psychanalyse n'a jamais été prononcé et où personne n'a la moindre idée de la notion d'inconscient, là où le travail déjà en route du rouleau compresseur de la déculturation, aussi bien au niveau scolaire, a déjà fait ses effets, ne nous leurrons pas. À ces jeunes, nous n'aurons plus accès. Et à certains jeunes, nous n'avons déjà plus accès. Si ça brûle dans les banlieues de façon régulière, il y a de nombreuses raisons, mais sûrement pas le fait que ces jeunes, que nous ne rencontrons pas dans nos cabinets de luxe, que nous ne rencontrons pas là où justement cette psychanalyse que nous aimons se pratique, c'est sûrement pas parce que ces jeunes ont affaire à des psychanalystes. Et je redis, catastrophisme non, vigilance oui, résistance oui, et si Françoise se sentait fatiguée à la fin de sa vie et disait ça, c'était une invitation que j'ai tenue et que je tiens encore à renouveler, à relayer. Je ne suis pas sûr que nous soyons si nombreux au moment où effectivement notre voix doit être entendue. Je ne suis pas sûr que nous soyons, nous psychanalystes, si nombreux pour la faire entendre. Et je vous invite, pour avoir la preuve de ce que je dis, à regarder combien de psychanalystes signent certaines pétitions et combien ils sont rares sur d'autres pétitions. Et je rappelle que c'est grâce à nos collègues et amis médecins de PMI que Pas Zéro de Conduite a été lancé. Pas grâce à des psychanalystes.
Je peux bien arrêter là-dessus.
Oui.
Attendez.
Je veux.
Pardon. Je ne sais pas qui parle.
Ici, là, au premier balcon.
Ah, voilà. Alors, deux secondes, s'il vous plaît. Encore deux interventions, dont la vôtre, courte si possible, en vous remerciant d'avance.
En fait, ça va être très court parce que Claude Chaudert vient de à peu près résumer ce que j'allais vous dire. Je suis Georgette Reveste, je suis psychanalyste. Oui. J'ai travaillé depuis de nombreuses années dans des lieux de la petite enfance et contribué à de travaux de recherche et des créations de divers lieux. À ce titre-là, effectivement, nous ne sommes pas simplement dans des cabinets confortablement installés et nous sommes quelques psychanalystes à rester dans des lieux où nous œuvrons par rapport à des jeunes, par rapport à ce qui est en train de se passer, qui n'est pas du tout de catastrophisme. Mais voilà, la bonne surprise de ces deux journées auxquelles j'assiste depuis hier, je pensais retrouver des collègues, retrouver cette pensée aussi exigeante et lumineuse de François Dolto. Mais qu'est-ce que j'entends ? Car partir de ce qu'elle nous rappelle et que nos collègues depuis hier nous rappellent aussi à leur tour, elle est prête, et moi je suis prête à partir de là aussi, de reprendre et de continuer ce qu'elle nous a enseigné. Et effectivement, il faut que nous nous rassemblions. Nous sommes plusieurs à travailler dans des collectifs, dans des lieux. Et tant mieux, c'est ces journées, c'est la bonne surprise ces journées. Je vous en remercie.
Merci. Dernière intervention. Au fond, à gauche.
Ah, bon. Bah, sinon, j'avais une intervention là. Mais...
Pardon.
Pierre Suisser, médecin de PMI, merci à Claude Chaudert, mais je voulais rappeler que le mouvement Pas de zéro de conduite, ça a été un rassemblement, justement, Sylviane Jean-Pinault, Roland Gory, Pierre de Lyon, nous-mêmes en tant que médecin de PMI, et je pense que, bon, il y a à la fois dans la situation des choses qui nous font voir qu'il y a le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté, et qu'on peut avancer, et qu'on doit avancer à la fois sur nos terrains professionnels et sur le terrain de la société. C'est un petit peu une des leçons qu'on a essayé de mettre en musique avec Pas de zéro de conduite, c'est-à-dire que le débat est d'une certaine façon, une certaine bagarre, on va dire, se mène sur les deux terrains, le terrain professionnel, le terrain scientifique, et aussi le terrain social, le terrain sociétal. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de rassembler. Moi, je ne suis pas dans une vision catastrophiste, mais je pense que les raisons d'alerter existent, vous les avez rappelées, et que donc les raisons de se rassembler, de mener ensemble la réflexion et des actions sont très très nombreuses, et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à faire advenir cette parole de tous les sujets et d'une société de sujets.
Merci. Alors, la poste ultime. Voilà, là-bas, ça sera la dernière intervention. On ne vous entend pas encore. Toujours pas. Grand suspense autour de la post-ultime intervention.
C'est bon, là ?
Là, voilà.
Oui. Ah, excusez-moi, c'est à mon tour ?
Oui.
D'accord. Donc moi, Charlotte Zinberg, je suis orthophoniste et j'ai également eu la chance d'être chargée de la petite enfance dans le 20e arrondissement de Paris. Et donc je voudrais citer deux exemples qui me poursuivent un peu ces derniers temps. Le premier, c'était la semaine dernière, à mon cabinet d'orthophonie, j'ai une famille qui a débarqué. Parce que leur enfant venait d'être dépisté hyperactif et ne pouvant payer 80 € par consultation, ils étaient allés voir quand même une pédopsychiatre en libéral qui leur avait dit que pour le confort des enseignants, il fallait peut-être mettre cet enfant sous Ritaline. Et voilà, donc ils ont atterri chez moi comme ça. Et j'ai essayé de chercher un endroit où cet enfant pourrait être aidé, autrement que par une orthophoniste, parce que moi, ça me dépassait. Et j'ai donc pris contact avec un CMPP que je connaissais de mon quartier, et où le discours avait, et ça m'a stupéfait, complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, jamais on n'aurait vanté les mérites de la Ritaline pour le confort des enseignants. Et là, c'est le discours qui m'a été tenu en disant, mais vous savez, Madame Zinberg, Ça peut être une solution pour les enfants. Vous comprenez, le confort des enseignants, c'est pas rien. Et ça m'a un peu glacé le sang. Et par contre, je voudrais quand même finir par une note d'optimisme parce que j'avais monté des conseils de parents dans les crèches de l'arrondissement. Et à ces conseils de parents, j'avais été assez surprise, mais finalement, bon, ils avaient bien raison, ces parents. Ils avaient dit, mais qu'est-ce que les psychologues viennent faire dans les crèches avec les lois qu'il y a actuellement? Est-ce que c'est pas dangereux, le lien qu'il y a entre les psychologues et les institutions? Nous, on n'a pas envie, c'est quoi tous ces psychiatres qui débarquent tout d'un coup dans les crèches? Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que les parents n'ont qu'une envie, c'est d'entendre le discours que moi j'ai entendu ici depuis deux jours. Ils n'ont que cette envie. C'est-à-dire que les discours que vous tenez, ça doit pas être réservé à un cercle fermé de psychanalystes ou de professionnels. Les parents sont tout à fait prêts à entendre. Je veux dire, ils aiment leurs enfants et ils ont pas envie que leurs enfants soient classés comme prédélinquants parce que ils ont un comportement quelquefois pas dans les normes. Et je veux dire, ils n'attendent que votre discours, sauf que ça reste peut-être un peu confiné à des cercles fermés.
Merci. Moi, je veux vous rassurer au nom. Je veux vous rassurer au nom de tous les collègues qui sont là. Nous sommes très nombreux à recevoir les parents, les enfants et effectivement être dans cette dynamique de discours, de désir, de parole et d'éthique. Si vous voulez bien, nous arrêtons nos travaux.